Chers frères et sœurs et chers amis, pour commencer, essayons de comprendre ce qui va m'arriver. Si par exemple, je suis coupable. Ceci est donc l'étude numéro 4 de « Où jeter l'ancre ». Je répète, pour commencer, essayons de comprendre ce qui va m'arriver, si je suis vraiment coupable. Mais, avant de poursuivre cette étude, je me dois de vous dire que je vous demande de m'excuser des nombreuses citations bibliques. Ceci est tout de même indispensable, surtout pour éviter que certains auditeurs pensent que ce sont des idées ou des interprétations personnelles. Pour éviter tout malentendu, quand j'utilise le nom ou le mot « Adam », cela veut simplement dire « l'homme et la femme ». Chers amis, pour éviter d'être emprisonné à cause d'une faute grave commise en temps de guerre, le militaire concerné s'enfuit. Mais en s'enfuyant, il devient déserteur. Il perd sa nationalité, les droits qui y sont inhérents, et devient passible de la condamnation capitale. Il s'est mis en quelque sorte hors la loi. Vis-à-vis de Dieu, notre position est celle du déserteur, puisque nous nous tenons hors la loi, qui peut dire le contraire. Oui, qui peut vraiment dire le contraire, si nous relisons la loi de Dieu, que je vous vais citer à la fin de l'étude, donc, et aussi que je vous ai cité à la fin de l'étude précédente. Voyez-vous, si la justice humaine n'admet aucune, vraiment aucune circonstance atténuante en ce cas, Dieu, en considérant notre imperfection, a prévu une parade au jugement définitif. Et cette parade réside dans la patience et l'amour de Dieu. Ceci, donc, cet amour, Christ, qu'il a assumé à notre place. Il a pris sur lui la malédiction et il a payé à la place du déserteur, devenu évidemment ennemi. C'est écrit un peu différemment, évidemment, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Et par ses efforts ou ses mérites, le déserteur ne peut recouvrer sa nationalité et ses efforts et ses mérites ne peuvent servir que le pays ennemi où il vit. Seul un jugement de grâce en sa faveur peut lui restituer sa nationalité. Le Messie a payé pour notre désertion la dette et acquittée par la mort volontaire et sanglante du suppléant de même nationalité. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 18, ainsi que Romains, chapitre 5, verset 9, et on peut aussi dire Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Donc le déserteur reprend sa nationalité du fait qu'il a obtenu sa réconciliation, selon Romains, chapitre 5, verset 11. Mon CD risque-t-il de finir simplement à la poubelle? J'espère pas, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, selon Hébreux, chapitre 4, verset 12. Il faut donc que le déserteur se reconnaisse déserteur, que le fils se reconnaisse loin du père. Il faut que le déserteur accepte la publication de la grâce. Il lui faut vouloir revenir au pays pour être gracié. L'enfant prodigue dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Il faut, après avoir senti le poids de la condamnation sur les épaules, pleurer de joie en sentant l'éclatement de la libération. Un ami pharmacien a mis 3 ans pour faire taire son orgueil et enfin connaître la libération de l'esprit. Et c'est alors que la fiction devient réalité. C'est alors que, comme pour un petit enfant, la confiance dans le Père est retrouvée. C'est alors qu'avec un cœur neuf, vous marcherez vers votre royaume, le royaume du Père Céleste, le royaume des cieux. Car voyez-vous, le Seigneur nous dit, si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 3. Si vous vous saisissez de cette promesse, elle se réalisera. Malachie, chapitre 3, verset 10. Chers amis, voyez-vous, vous pouvez me faire confiance, car quand une vie se trouve ainsi transformée, ce n'est pas sur un coup de dé, un coup de tête ou un coup de cafard, mais sous le coup de la puissance de Dieu, et ça ne s'oublie plus. Sitôt qu'Adam, ou Ève, vous l'avez compris, admet sa culpabilité, il retrouve d'abord la joie intérieure de sa réconciliation personnelle et il peut ensuite bénéficier de la poursuite logique de l'action judiciaire. Et nous allons voir maintenant ce que c'est le substitut. Qui casse les verres, les paye. C'est la base universellement juste du remplacement d'une chose détruite par une chose identique ou par sa valeur en l'état neuf. L'histoire dit bien que des hommes sont morts pour sauver la vie à d'autres, ce qui est une preuve de l'efficacité du phénomène de la substitution. Il n'en reste pas moins que tout substitut est limité quant au pouvoir et à la valeur de son acte. Romains chapitre 5, verset 7. En effet, l'homme qui sauve la vie d'un ou de plusieurs autres ne peut par sa mort modifier les mauvais états d'âme des personnes qu'il sauve de plus pour que sa propre mort soit juridiquement méritoire. Il faudrait qu'il n'ait jamais fait ou pensé le mal, puisque la justice parfaite est celle qui se doit de punir le mal sous toutes ses formes. Il ressort de cet état de choses qu'aucune mort humaine, substitutive, n'est pleinement méritoire pour soi et pour les autres. Seule la mort d'un être sans défaut et sans tache, selon la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 19, peut satisfaire la parfaite justice. Et c'est précisément d'un tel être que tous les Adam et Ève ont besoin au moment de leur mort, comme substitution valable des fautes de leur vie. C'est donc seulement lui, Jésus-Christ, qui peut ôter le péché du monde. Selon Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Le résumé de l'optique divine est donc la suivante. Coupable par jugement, amnistié par grâce. Par la divine grâce, je suis donc devenu, par la faveur imméritée que Dieu réserve à ceux qui croient en sa sainte parole, un fils de la lumière. Je vais laisser mon corps d'Adam à la terre et rejoindre mon Dieu qui est le Père des Lumières, selon Jacques, chapitre 1, verset 17. Et cette translation sera le résultat de mon choix, et plutôt que les ténèbres, eh bien, j'ai choisi la lumière de Dieu. Chers amis, la loi nous dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Et là, vous pouvez noter plusieurs versets intéressants. Romains chapitre 2, verset 12. L'évangile de Luc chapitre 12, verset 47. Jacques chapitre 2, verset 13. Et Daniel chapitre 12, verset 1 et 2. Il y a des déserteurs qui ont sincèrement pensé bien faire en servant un pays ennemi dont la cause leur paraissait plus juste que celle de leur propre pays. Il y a des Adam qui ignorent sincèrement que Jésus est le Messie et qui l'outragent ou le rejettent. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 24. Telle sera évidemment leur sentence. Adam n'a pas eu connaissance de la promesse de la grâce à son endroit, et le jugement de Dieu tiendra compte des lumières qu'il aura reçues de sa conscience, et il sera jugé sur la conduite qu'il aurait eue face à l'Évangile. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon l'Évangile, Dieu jugera par Christ les actions secrètes des hommes. C'est ce qui est écrit dans Romains, chapitre 2, verset 15, et Actes, chapitre 10, verset 34 et 35. Donc, si un père interdit à son jeune fils de s'approcher du feu, l'enfant peut ne pas faire la volonté de son père et se brûler. L'annonce d'une promesse de grâce est faite au déserteur par la voix de presse, qui est l'Évangile, alors qu'il vit encore en pays ennemi le péché. Le déserteur croit ou non, en la promesse par la foi, comme il est dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a vraiment ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9, ainsi que Nombre, qui se trouve dans l'Ancien Testament, Nombre 21, verset 8. Ni un autre Adam, ni une autre religion ne peuvent se substituer au pécheur pour le sauver. La foi en cette grâce est absolument personnelle. Par exemple, un professeur conduit son élève à l'examen, mais il ne peut passer l'examen à sa place. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Galates chapitre 3, verset 24. Or, si l'élève fait mal, ce même professeur lui refuse l'examen. La loi est la conscience de même, car voyez-vous, quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Jacques, chapitre 2, verset 10. Seule la grâce, c'est-à-dire le repêchage, peut sauver l'élève. La loi a été comme un pédagogue, afin que nous fussions justifiés par la foi. Galates, chapitre 3, verset 24. L'Adam qui ne croit pas en sa grâce est donc un orgueilleux et son verdict sera « Par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Est-il dit dans Romains, chapitre 2, versets 5 et 6. Quelque chose que chaque personne devrait savoir, c'est que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Romains chapitre 10, verset 4. La résultante de cette justification, c'est la paix et la joie intérieure. Il y a 113 textes du Nouveau Testament qui parlent de la joie évangélique. Il est bien évident que seule une paix profonde peut permettre à l'ancien condamné de témoigner qu'il est devenu saint dans le sens étymologique de « mis à part ». Adam est dès lors mis à part, mis hors de danger, et il est de ce fait sauvé véritablement. Chers amis, qui accusera les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Or, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Selon Romains, chapitre 8, verset 33 et 35. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 verset 1, ainsi que Romains chapitre 15 verset 16, et l'évangile de Jean chapitre 10 verset 28, on peut continuer avec Hébreux chapitre 7 verset 25, sans oublier la première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. En plus de l'heureuse nouvelle, il y a l'heureuse nouvelle future de l'absence de jugement. Car selon les Saintes Écritures, la période actuelle de la grâce est tout près de se terminer de par la réalisation des prophéties. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 33. Or, à la fin de cette période, subitement aura lieu le temps des jugements. Il existe dès à présent le jugement individuel immédiat, sitôt la mort. Mais ce jugement individuel sera universalisé selon Actes chapitre 17 verset 31, et ceci lors du retour du Messie, retour dont parlent de nombreux textes du Nouveau Testament. Le Messie ne sera plus l'agneau, mais attention, il va devenir le juge, comme il est dit, le Père a remis tout jugement au Fils, selon Saint Jean chapitre 5 verset 22, sans oublier Matthieu chapitre 25 verset 31. Chers amis, que dit la justice de Dieu? Elle dit que celui qui n'a pas entendu aussi bien que celui qui a entendu sont justiciables, sans commentaire du tribunal de Dieu. Or, puisque nous comparaîtrons tous, absolument tous, devant le tribunal de Dieu, selon Romains 14, verset 10 et Apocalypse chapitre 20, verset 12, c'est normal. Ne sommes-nous pas tous des pécheurs? À ce tribunal, ces Adam-là, ils risquent la condamnation du fait que c'est après une seule offense que le jugement devient condamnation, selon Romains chapitre 5, verset 16. Celui qui a entendu est donc accepté. Il passe également devant le tribunal de Dieu, Romains chapitre 14, verset 10. Mais, un peu différemment, je répète, celui qui a entendu est donc accepté. Il passe également devant le tribunal de Dieu, mais en acquittement. Quel soulagement! Car en effet, voyez-vous, le jugement n'atteint pas celui qui est devenu par sa foi un chrétien authentique, car Jésus-Christ a déjà été jugé à sa place. Donc le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus-Christ. Isaïe, ou Ésaïe, c'est la même chose, chapitre 53, verset 5. Ainsi donc, l'heureuse nouvelle de Jésus-Christ est d'apprendre à Adam et Ève qu'il peut, s'il veut, recevoir encore aujourd'hui une vie à motivation plus excellente que celle qu'il a connue jusque-là, à condition qu'il veuille crucifier cette ancienne vie marquée par son propre péché et que ce péché soit connu du public ou caché dans le huis clos de son cœur. Maintenant, l'homme entreprend, heureusement, de compter sur Dieu. Ses illusions tombent. Les Adam, voient maintenant qu'un cadre religieux n'est plus supportable, car ce cadre ramène plus ou moins à la loi en imposant des obligations. Il crée des divisions parmi les chrétiens traditionnels. L'apôtre Paul le disait déjà dans les années 57. Il y a des disputes au milieu de vous, a-t-il dit. et chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Or, Christ est-il divisé? Notez 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 11 et 13. Dieu n'a pas dit « Soyez par exemple catholiques, protestants, etc. » Il nous dit « Soyez de Christ, pour Christ et en Christ. » Donc, Adam et Ève veulent transcender les étiquettes religieuses, rejeter un goutte-à-goutte spirituel et donner tout son cœur à la source de la vie elle-même, parler à Dieu et l'écouter sans aucun intermédiaire. Adam comprend que le doute est le contraire de la foi. Genèse, chapitre 3, verset 1. Il se dit que tout homme ou tout théologien qui a placé ou qui est placé devant la mort doute d'une vie de plénitude immédiate auprès de Dieu, et la preuve nécessaire et suffisante que cet homme ou ce théologien ne possède pas vraiment la divine vérité du salut, puisque l'Évangile nous dit « Christ est ma vie » et la mort met un gain. Philippiens 1, verset 21. Adam considère aussi la discordance mondiale actuelle qui existe entre des sociétés qui possèdent un bien-être jamais encore connu et qui ont une angoisse indicible quant à l'avenir. Évangile de Luc, chapitre 21, verset 25. Par exemple, l'augmentation en Europe des suicides chez les jeunes, et ceci depuis, on peut dire, quelques années, est environ de 10%, ce qui fait en moyenne tout de même un suicide tous les jours. Les sociétés religieuses n'ont rien acquis de plus que les sociétés athées, car ni les uns ni les autres ne sont sûrs qu'un devenir immuable existe après la mort. À titre documentaire, le cardinal Mazarin est mort en disant « Mon âme, qu'adviendra-t-il de toi ?» Et Lénine, frappé d'hémiplégie, est mort en état d'aliénation mentale. Il implorait ses meubles de lui accorder le pardon de ses péchés. Et Nietzsche est mort dans la démence. Voyez-vous, la science a acquis un degré étonnant de perfection. A remarqué en passant que ce progrès scientifique était prévu dans la Bible par un écrit vieux de 2500 ans, selon Daniel chapitre 12, verset 4. Mais nulle science n'a changé le mal en bien, car le cœur de l'homme ne s'est nullement perfectionné, il a tout juste endossé un vêtement de savoir-vivre, vite ôté quand il gêne un peu trop, l'arbre de la science est absolument incapable de donner un fruit de vie. L'homme sait haïr et aimer plus ou moins bien, mais sans Christ, l'arbre de vie est incapable de vivre que pour aimer. Donc Adam rejette l'athéisme comme illogique et contraire à la vérité historique, il se rend compte qu'il a tâtonné à travers les moyens que les hommes lui ont suggérés pour s'élever vers un certain Dieu. Acte 17, verset 27. Il avoue qu'il a essayé les religions diverses et qu'il est maintenant parvenu à la grande religion chrétienne traditionnelle qui est la plus répandue, c'est la religion catholique. Catholique veut aussi dire universelle. Adam se tient donc dans la lumière de l'Évangile et il constate que les enseignements traditionnels sécurisants de cette religion fondent comme neige au soleil, oui, au soleil de la parole de Dieu. Maintenant, voyons un peu ce que dit la religion chrétienne traditionnelle. Par exemple, concernant le baptême des enfants, ça c'est intéressant. Il éviterait aux petits-enfants qui meurent avec le soi-disant péché originel un séjour éternel loin de la vue de Dieu et de son amour rayonnant. Quel cœur de père serait assez dur pour interdire à son jeune enfant de le voir pendant toute sa vie parce qu'il serait porteur d'une tare congénitale. Matthieu chapitre 7, verset 11. Si Dieu ne justifie pas un innocent, il n'est pas juste. Il n'est pas Dieu. Voyez-vous, l'enfant a hérité de ses parents, selon les lois naturelles, la possibilité de pécher, mais pour pécher, croyez-moi, pour manquer le but de la vie, pour être séparé d'avec Dieu, la Bible dit qu'il faut être tenté, être attiré par sa propre convoitise, et puis quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit évidemment la mort, selon Jacques chapitre 1 verset 15. Or, quel est l'enfant saint d'esprit qui, avant l'âge de raison, je répète, avant l'âge de raison, a toute connaissance pour valoriser ses actions à un tel point? La psychologie démontre que la culpabilité ne commence qu'avec l'éveil de la conscience. Donc, à plus forte raison, un bébé est-il totalement incapable de pécher? Il ne sait même pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, la Bible en donne une flagrante démonstration du fait que Jésus-Christ n'a jamais fait baptiser des enfants, mais qu'au contraire, il a dit « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Saint Matthieu, chapitre 18, verset 3. Le baptême d'eau n'est en conséquence fait que pour illustrer chez des jeunes et des adultes conscients, je répète, conscients, l'engagement qu'ils prennent, selon la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, de noyer publiquement et volontairement une nature encline à pécher pour marcher en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 2 et 6. Quant au purgatoire, oh là là, ce serait un temps plus ou moins long à passer dans un lieu hypothétique pour purger ses fautes avant de pouvoir entrer au ciel. Eh bien, chers amis, je ne vais pas perdre votre temps avec ce problème, car il ne se trouve absolument pas dans la Bible. Au sujet du pardon des péchés, ça c'est tout autre chose. Il existe un texte qui dit « Jésus-Christ souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit et ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Évangile de Saint Jean, chapitre 20, versets 22 et 23. Historiquement et dans la pratique, l'apôtre Pierre est absolument le seul qui a retenu le péché qu'Ananias et Saphira avaient fait contre Dieu, selon Actes, chapitre 5, verset 3. Or, le résultat en a été leur mort instantanée. Mais l'apôtre ne l'a d'ailleurs plus jamais fait. Il n'a pu supporter une si terrible responsabilité. Par contre, bien qu'il en ait reçu le pouvoir, aucun apôtre ne s'est jugé digne de remettre une seule fois une offense commise directement contre Dieu. Ils ont certes pardonné les offenses comme le leur a enseigné Jésus-Christ le Messie. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui, oui, et s'il a péché contre toi sept fois, dans le jour, et que cette fois, il revienne à toi en disant « Je me repens », eh bien, tu lui pardonneras. C'est écrit dans Saint Luc, chapitre 17, versets 3 et 4. Pardonne-nous donc nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 12. Les apôtres n'ont jamais, absolument jamais, pardonné de péchés commis contre Dieu. Comme eux, il convient de faire la distinction entre péché contre Dieu. L'apôtre Pierre lui-même, ou si vous voulez, Saint Pierre, c'est la même chose, lui-même, en présence d'un malade, et dans un cas identique à celui de Jésus-Christ, il a simplement dit « Lève-toi et marche » Actes chapitre 3, verset 6. Alors que Jésus-Christ, le Messie, il a dit « Tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche » Saint Matthieu chapitre 9, verset 2 et 6. Donc, la voie utilisée par les apôtres pour retenir ou remettre les péchés a toujours été celle de la repentance au nom de Jésus-Christ, voie extérieure à eux-mêmes. Actes chapitre 2, versets 37 et 38. C'est la voie de la prédication de l'Évangile. La repentance, c'est le pardon des péchés qui sont prêchés en son nom, dans le nom de Jésus-Christ, et ceci à toutes les nations. C'est écrit dans Luc, chapitre 24, verset 47, et Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Tout ceci fait conclure à Adam que Dieu seul, absolument Dieu seul, a le pouvoir de pardonner entièrement toute offense faite contre lui. C'est pour cela, se dit Adam, que les confessions faites à un homme ou à un religieux sont totalement incapables de m'assurer un pardon total et complet. Car en effet, Adam se rend compte des serments d'ivrogne qu'il fait aux confessions du samedi, où il dit « Je prends la ferme résolution de ne plus tromper ma femme jusqu'à lundi prochain ». C'est donc la preuve flagrante que celui qui confesse est incapable de lui procurer la puissance de ne plus recommencer, cette puissance qui est réservée seulement au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il a été le seul, et il est le seul qui a été prédit il y a 700 ans déjà, avant sa venue, que l'homme de douleur qu'il est, nous avons fait de lui, de Jésus-Christ, aucun cas. Cependant, ce sont nos offrances, nos souffrances, toutes nos souffrances qu'il a portées sur lui. Et c'est de nos douleurs, toutes nos douleurs, qu'il s'est chargé, car il était blessé pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Notez et lisez Isaïe, Ésaïe, chapitre 53, versets 3 et 5. Ce pouvoir donc, il n'y a que le Messie, Jésus-Christ, qui l'a acquis par son sang versé à la croix. Ceci est mon sang qui est répandu pour la rémission des péchés. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 28. 6 autres passages du Nouveau Testament complètent et confirment cet enseignement, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Vous avez bien entendu, il n'y a qu'un seul médiateur, pas d'autre, entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, le Messie. Alors là, vous pouvez noter 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, Colossiens, chapitre 1, verset 14, Hébreux, chapitre 7, verset 25, et la première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Adam ne peut plus confondre pardon des offenses et pardon des péchés, car le pardon qui certifie la paix avec Dieu, vient de Jésus-Christ seul et pas de quelqu'un d'autre. Il est donc clair que les efforts personnels pour le salut non seulement sont un non-sens, mais une insulte au sacrifice du Messie. Il le considère comme insuffisant, alors que nous lisons cette parole même de Jésus-Christ, que tout est accompli. Saint Jean, chapitre 19, verset 30. Adam ne peut plus se glorifier de ses mérites ou efforts personnels faits en vue de se sauver tout seul. Et il s'aperçoit que la fameuse sentence « Aide-toi, le ciel t'aidera » se trouve dans la fontaine à la table du charretier embourbé et non dans la Bible qui enseigne tout le contraire. « Cherchez premièrement, est-il dit, le royaume de Dieu ». Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est écrit dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Que dire au sujet des bonnes œuvres? Eh bien, ici, l'illusion tombe dès le départ. Toutes les bonnes œuvres qui ont pu être faites avant l'acceptation du salut par Jésus-Christ le Messie, sont taxés, et c'est pas moi qui le dis, sont taxés d'œuvres mortes. Hébreux chapitre 9, verset 14. Les athées, eux, y font aussi de bonnes œuvres. Eh oui. Et les chrétiens traditionalistes qui font de bonnes œuvres, selon leur idée personnelle ou religieuse, ne le font pas obligatoirement selon la volonté de Dieu, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19. Et il sera dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. La question est tranchée pour Adam. Pas de salut par les œuvres sans la foi en Jésus-Christ. Christ lui-même a la question « Que devons-nous faire ?» pour faire les œuvres de Dieu, il répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 28 et 29. C'est-à-dire, en lui, en Jésus-Christ le Messie. Le cheminement logique par rapport à Dieu est que, autrefois, vous étiez étrangers et ennemis par vos mauvaises œuvres, Jésus-Christ vous a maintenant réconciliés par sa mort. Colossiens, chapitre 1, verset 21. Donc, ou si vous préférez, on pourra dire, par exemple, dans ce que je vais vous citer, certains versets, et quand je vous dis l'apôtre tel et tel, si vous préférez, vous pouvez appeler ces apôtres Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jean. Ça ne change rien. Alors, reprenons. L'apôtre Pierre nous dit, c'est par la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés. Actes chapitre 15, verset 11. L'apôtre Paul ou Saint-Paul, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la foi, ou non, plutôt, excusez-moi, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, je répète, les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 2, verset 16. L'apôtre Jean, ou Saint Jean, il dit, nous avons vu et nous attestons formellement que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 14. Or, d'autre part, si nous n'acceptons pas le sacrifice du Christ comme suffisant, eh bien, nous venons de le voir, c'est non seulement une offense à Dieu, mais encore c'est avoir l'orgueil d'égaler par des œuvres humaines l'œuvre divine qui est parfaite. Sommes-nous vraiment sûrs de n'avoir fait que de bonnes œuvres? Moi, j'en suis pas trop sûr. Et d'en avoir fait assez pour affronter un jugement parfait? Moi, j'en suis pas très sûr non plus. Adam baisse donc la tête et il répond honnêtement non. Nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains chapitre 3 verset 28. Que penser au sujet de la messe, le sacerdoce et l'Église? Eh bien, Adam, puisque nous l'avons nommé ainsi, Adam et Ève, il lit dans la Bible, il s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande. Éphésiens chapitre 5, verset 2. L'homme ne peut donc plus offrir le Christ à Dieu, pas du tout. Et encore, Jésus-Christ possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Hébreux chapitre 2, chapitre 7. Je répète, Hébreux chapitre 7, verset 24. Comment dès lors un prêtre peut-il offrir un sacrifice pour lequel il n'existe plus de sacrificateur humain? Puisque la nouvelle alliance nous affirme que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, selon Hébreux chapitre 10, verset 10 et Hébreux chapitre 9, verset 26 et 28, et que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux chapitre 10, verset 18. Adam conclut donc que le sacrifice de la messe est erroné et inutile. La logique biblique ne hiérarchise pas les chrétiens authentiques en laïcs et religieux. Il est écrit à celui qui a fait de nous des prêtres pour Dieu notre Père, selon Apocalypse chapitre 1 verset 5 et 6, tout chrétien devient prêtre, c'est-à-dire sacrificateur. Mais ce n'est plus Christ que nous offrons, mais c'est nous-mêmes. Nous-mêmes à offrir nos corps, notre moi, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera notre part. Donc, ce qui sera de notre part, un culte raisonnable, selon Romains chapitre 12, verset 1. De plus, si le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus-Christ, il y a alors deux Christ en face l'un de l'autre, et cet imbroglio religieux n'existe pas du tout dans la Bible. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Et plus loin, l'explication. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Saint Jean chapitre 6, verset 53. Et, sans oublier que Christ n'existe plus en chair et en os. Pas du tout. Christ n'existe plus dans sa chair. Il vit dans un corps spirituel totalement glorieux. Notez et lisez Philippiens chapitre 3 verset 21 et ça change tout. La Bible dit que la véritable Église n'est pas celle de Pierre, de Paul ou de Jacques, ni si nous les appelons Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Jacques, ni celle qui a commencé à Rome en 300, donc dans les années 300, mais celle que Jésus-Christ a instituée à Jérusalem dans les années 30. Il a dit « Je bâtirai mon Église », selon Matthieu chapitre 16, verset 18, et non pas « ton Église ». Je répète, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et non pas ton Église, c'est Christ, la pierre d'angle vivante. C'est lui le fondement réel. C'est Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Approchez-vous donc de lui, de la pierre vivante, selon la première épître de Pierre chapitre 2, verset 4. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. L'apôtre Pierre n'a jamais eu l'infaillibilité d'un pape. L'apôtre Paul a dû le reprendre publiquement quant à la doctrine évangélique, et vous pouvez le voir dans Galates chapitre 2 versets 11 et 14. L'apôtre Pierre ne s'est jamais reconnu de suprématie pontificale. Notez la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Il écrit 3 ans environ avant sa mort au sujet de chrétiens anciens. Moi, ancien comme eux, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 1, et encore, il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Oui, une maison spirituelle, c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. C'est ça, et pas autre chose, la véritable Église. Pour conclure, saint Augustin, l'un des plus éminents pères de l'Église, a déclaré « Que signifient les paroles ? Je bâtirai mon Église sur cette pierre, sur cette foi, sur ce que tu me dis, car tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » C'est uniquement, chers amis, sur et en Jésus-Christ que nous devons bâtir notre Église. Donc, un homme sûr de lui est un homme qui est fort, puissant. Or, Adam avait été frappé par le manque de puissance de quantité de croyants et d'hommes religieux. Dieu, tout au long de sa parole, se révèle comme puissant. Où sont, dans la vie courante, les témoignages de sa puissance manifestée chez les chrétiens traditionnels qui se disent disciples du Christ? Adam se demande ce qu'il faut faire pour voir des miracles comme ceux faits justement par les disciples du Christ, pour parler en d'autres langues, pour obtenir un esprit de discernement. Que faut-il donc faire? Faut-il être illuminé ou anormal? Faut-il réciter des formules magiques? Rien de tout cela, au contraire. Il faut rester fidèle à la parole de Dieu en déplorant seulement que ces faits surnaturels qui ont existé et qui existent toujours chez les seuls chrétiens authentiques ne soient malheureusement que l'apanage d'un très petit nombre parmi eux. À ce sujet, parce que beaucoup d'authentiques chrétiens disent et ne font pas, l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 3, ou parce que leurs paroles et leurs actes sont souvent loin d'être parfaits, je conjure Adam de ne pas mettre Dieu dans le même sac que les chrétiens, de ne pas s'inquiéter d'eux, de regarder seulement à la vie de Jésus-Christ et uniquement à sa sainte parole, sachant que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains chapitre 14, verset 12. Je peux donc dire à Adam que s'il veut vivre une foi vivante et non pas subir un christianisme totalement mort, s'il veut avoir des réponses, des manifestations de puissance divine, des dons spirituels, il lui faut tout simplement être en Christ, être mort avec lui. Je m'explique. Cela veut dire qu'Adam doit clouer, comme sur une croix, ses fardeaux, ses fautes, ses rébellions, ses mauvaises natures, et Jésus-Christ est assez fort pour tout supporter, et il est assez puissant pour tout effacer en une seule fois. Hébreux chapitre 9, verset 26. Il a assez d'amour pour tout pardonner, quelle que soit l'énormité des choses faites, et il est toujours vivant pour aider Adam à ne plus chuter, à ne plus se laisser dominer par son ancienne nature, mais il est assez jaloux pour ne pas tolérer un autre chemin que le sien. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Saint Jean chapitre 14, verset 6. « La clé de la porte du ciel a la forme de sa croix et l'huile qui permet à la serrure de jouer, c'est son sang versé, c'est celui de l'agneau de Dieu. » Donc, avant de terminer cette étude, n'oublions jamais, mourir avec Christ, c'est mourir aux futilités du monde, aux plaisirs trompeurs, aux passions qui dévorent. Et mourir avec Christ, c'est faire le point sur l'océan immense de la vie, c'est de admettre que l'on a perdu d'avance, c'est de rendre ses billets pour ne plus jouer à qui perd gagne. Mais c'est laisser tomber une course folle aux honneurs et à l'argent, sachant que cette course finira absolument à la tombe, au cimetière. Premier épître de Timothée, chapitre 6, verset 7. C'est se reconnaître étranger et voyageur sur la terre. Mourir avec Christ, c'est perdre son moi pour le remplacer par lui, Jésus-Christ. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 39. C'est donc tourner enfin ses regards vers le haut. Et c'est accepter de ne pas avoir toujours raison. C'est lui demander pardon de s'être fait Dieu, de se faire Dieu à sa place, en s'occupant de soi, de moi, plutôt que de lui. C'est lui demander aussi pardon de s'être fait d'autres dieux à sa place. C'est partir vers une vie de lumière intérieure. C'est savoir que le ciel existe. C'est laisser vivre Christ en soi. Si nous sommes morts avec lui, eh bien nous vivrons aussi avec lui. 2 Timothée chapitre 2 verset 11. En un seul mot, c'est accepter de se remettre en question. Jacques chapitre 4 verset 6. Sur la base unique du salut par grâce, grâce voulant dire faveur imméritée. Nous avons vu que la grâce de Dieu ne connaît qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ crucifié. 42 textes bibliques l'affirment, et lisons par exemple seulement 6 d'entre eux. Je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Saint Jean, chapitre 10, verset 9. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes, chapitre 4, verset 12. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 5, verset 1. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Christ possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Hébreux chapitre 7, verset 24. Dieu a donc fait la paix avec nous par le sang de la croix du Christ. Colossiens chapitre 1, verset 20. Donc, Adam, s'il te plaît, comprends maintenant que c'est dans le sang précieux que va reposer ta certitude, parce que le sang se voit et parce que le sang de Jésus-Christ le Messie a historiquement coulé, mais surtout parce qu'il est une preuve formelle, visible, de l'amour producteur de vie. Oui, la vie est dans le sang, et l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, son Fils unique, afin que nous vivions par lui. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 9. Chers amis, avant de terminer par la prière, je voudrais simplement vous citer une petite consolation. Pourquoi s'exciter tellement, se fâcher, être si soucieux? Ressaisis-toi quand l'humeur chagrine ou irritable fait irruption en toi. Sois tranquille devant Dieu, fais-lui l'offrande de ta volonté et dis-lui ce que tu fais, la manière dont tu me diriges ou m'interdis telle chose, tout est bien, car je sais que tu as ordonné toutes choses avec sagesse et je mets toute ma confiance en toi. Je m'abandonne à ta volonté. Tu m'as libéré, Jésus-Christ, de ma volonté propre et de mes soucis. Tu ne tarderas pas alors à remarquer que la paix de Dieu inonde ton cœur et que ton œuvre est bénie. Prions maintenant ensemble. Ô roi des nations, toi dont notre Seigneur Jésus-Christ nous a révélé la paternité, toi pour qui tous les hommes sont tes enfants et qui veux les rassembler des bouts de la terre pour les réunir sur ta montagne sainte, toi qui veux que la connaissance de ton saint nom se propage de peuple en peuple jusqu'à ce que les îles espèrent en ta loi. Toi qui as ordonné à tes disciples de prêcher ton évangile salutaire jusqu'aux extrémités du monde, et d'apporter la lumière au peuple assis dans l'ombre de la mort, accorde-nous, ô Père, une pleine compréhension de ta sainte volonté. Éveille-nous et nos églises au sentiment de nos responsabilités à l'égard des peuples que l'Évangile n'a pas encore touchés, et en particulier envers ceux qui ont eu à souffrir ou souffrent encore de l'égoïsme et des brutalités de certains peuples. Nous te bénissons pour l'immense et glorieux effort missionnaire de la chrétienté, pour cette œuvre d'obéissance à ton commandement et aussi de réparation nécessaire à laquelle tant d'apôtres et de pionniers se sont consacrés. Intensifie en nous le souci des races abandonnées et la vision des champs du royaume blanchissant pour la moisson. Dieu de sainteté, d'héroïsme et de compassion, toi dont la folie est sage et dont la faiblesse est puissante, suscite encore des missionnaires pour que la moisson puisse être fructifiante, que des âmes soient sauvées. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime et nous vous aimons également de tout notre cœur. Merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et, comme je vous l'avais dit, cette série continue encore un bon moment où jeter l'ancre. Et à bientôt à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.